Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que nous fassions notre lecture dans l'Épître aux Romains, si vous voulez bien. Alors, on va prendre en considération un message important que l'apôtre Paul nous laisse à travers cette lettre donc aux Romains, chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 14, où il est question finalement d'une réflexion sur la nature humaine. Et il est question de ce qui ressort de ce texte, et le commentaire que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement la double nature. Voilà. Alors on pourrait peut-être le définir de cette manière, le bien existe, le mal existe. Et dans l'humanité, il y a à la fois du bien, il y a aussi du mal. Et c'est ce que Paul tente d'expliquer, c'est une exhortation d'abord, c'est un enseignement qui fait la démonstration de ces grandes réalités dans notre monde, et cela depuis la chute, qui nous est expliquée dans le livre de la Genèse, cette ambivalence qu'il peut y avoir entre la lumière et les ténèbres, la mort et la vie, entre le bien et le mal, etc. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est traité par Paul ici, bien sûr dans d'autres passages du Nouveau Testament, mais là c'est véritablement quelque chose qui est bien expliqué, me semble-t-il. Alors il faut que je vous l'explique, mais vous le connaissez déjà, on le sait en théorie, mais quant à finalement lui donner une application, souvent c'est très difficile parce que à l'intérieur de nous-mêmes, même si nous appartenons au Seigneur, nous avons encore ces tiraillements, toutes ces situations qui sont vraiment très désagréables. On aimerait tellement être des anges, c'est vrai. On aimerait que notre vie, à partir du moment où nous avons donné notre existence à Jésus, plus de problèmes, plus de difficultés. Nous sommes véritablement là comme des anges, mais ce n'est pas le cas. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut bien comprendre cela parce que ça peut être, si nous ne le comprenons pas, ça peut être quelque chose de profondément épuisant aussi, et qui peut gâcher notre vie de foi, notre vie spirituelle. Alors on va lire à partir du verset 14, Romains 7, 14, et nous dirons quelques mots. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, les commandements de Dieu, mais moi, dira Paul, je suis charnel, et il emploiera un mot qui est assez explicite, je suis vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. C'est grave. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, c'est-à-dire dans mes désirs et mes aspirations les plus belles et les plus nobles, mais je vois que dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, là, on touche du doigt, la double nature. C'est ce que j'ai dit il y a un instant. Je fais ce que je veux pas. Je veux faire le bien et finalement je suis transporté malgré moi à faire le mal. Et puis, quand je repousse le mal, Eh bien, c'est une dualité, c'est véritablement, eh bien, un conflit, une guerre en quelque sorte. Alors, cette double nature, Paul l'explique, on dirait, mais Paul, un homme comme Paul, bon, il a dû arriver au sommet de la sainteté, hein, c'est pas possible. Eh bien, Paul nous explique cela parce qu'il l'a vécu. Et je crois que nul chrétien conséquent, sincère, soucieux de plaire à Dieu, peut s'identifier avec ce texte. Parce que c'est pas possible. Autrement, c'est pas possible. Hein, un chrétien qui acceptait Jésus, qui a reçu les principes de l'esprit de l'évangile, ben, ça peut pas être autrement. C'est comme si nous entrions en guerre, en quelque sorte, quand on découvre le Seigneur. Il y a des gens, ou peut-être nous, auparavant, lorsque nous ne connaissions pas Jésus, nous étions dans l'ignorance. Enfin, une certaine ignorance relative. On savait bien ce qu'était le bien et le mal, il y avait une conscience, mais enfin, on s'accommodait avec cette conscience. Et on s'est aperçu que, en aspirant profondément, en entendant la parole de Dieu, l'évangile, l'appel de Dieu, là est né à l'intérieur de nous-mêmes comme une dualité, un conflit, qui quelque part, en reconnaissant Jésus, ça nous a réjouis profondément, parce qu'il y a la joie, finalement, eh bien, du pardon, la joie de la conversion, la joie d'une vie nouvelle, et puis d'une perspective et une espérance. Puis d'un autre côté, il y a comme quelque chose qui nous combat, quelque chose qui est là à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne peut pas identifier vraiment, au départ, et qui, véritablement, nous rend profondément malheureux. Alors c'est vrai que cette double nature nous donne le sentiment d'être perdu quand on fait le mal. Pour nous, les chrétiens, il y a des gens qui allègrement peuvent faire le mal, et puis au contraire, c'est leur nature de faire le mal, et ils ne savent pas ce que c'est que faire le bien. Mentir, faire souffrir, enfin toutes sortes de choses. Hein, je ne vais pas énumérer tout cela, mais il y en a qui font allègrement voler. C'est tout à fait normal dans le monde dans lequel on est, etc. etc. Ils ne s'embarrassent pas avec des principes moraux. Mais à partir du moment où on découvre le message de l'Évangile et ses exigences, qui, lorsqu'elles sont vécues, elles nous rendent heureux. Parce que le fond de nous-mêmes, c'est finalement eh bien, faire le bien. C'est bénir les autres. C'est leur apporter eh bien, ce qu'on voudrait que nous, on nous apporte aussi. C'est ce que Jésus dit hein, dans les principes. Alors, quelquefois, et même encore aujourd'hui, même en tant que chrétien, après des années peut-être de conversion, lorsque nous chutons, parce que ça arrive, lorsque nous sortons un peu du chemin, eh bien, on se dit, quelquefois, il y a une voix à l'intérieur de nous qui dit « Mais t'es perdu, là. Pas possible. » Et ça nous rend profondément malheureux. On a des doutes. On commence à douter, finalement, eh bien, est-ce que Dieu nous aime encore? Est-ce qu'il ne va pas nous punir? Enfin, toutes sortes de choses. Donc, il y a une dualité. D'ailleurs, c'est bien écrit dans d'autres textes, hein, que l'affinité ou l'amitié de la chair, eh bien là, est contraire aux aspirations de l'esprit. Hein. Et on ne fait pas ce que l'on veut, parce que l'esprit qui est en nous dit, ben voilà, il y a quand même certaines règles, et on sait très bien quand on fait mal. Donc il y a cette dualité qui apparaît. Il y a comme une déchirure dans certaines situations, au niveau de notre âme, notre pensée, notre cœur. Et puis naturellement, il y a cette sacrée culpabilité. Hein. Paul savait ce qu'il en était, il l'a écrit, hein, c'est noir sur blanc hein, devant nous la culpabilité, en disant, mais voilà, et ça rend les gens malheureux. Je crois qu'une grande partie du monde est profondément malheureux à cause de la culpabilité, même s'il ne l'avoue pas. Nous, les chrétiens, ça nous arrive d'avoir culpabilité. Je le rappelle au passage, il y a la vraie culpabilité lorsque nous faisons mal, et que là, le Saint-Esprit, hein, l'Esprit qui est en nous dit, mais c'est pas bien, et on le sait que c'est pas bien, on le sait parce que nous ne sommes plus des ignorants. Et puis, il y a la fausse culpabilité où lorsque, quelque part, nous avons fait le mal et qu'on n'arrive pas à prendre le pardon de Dieu et qu'on n'arrive pas à croire que Dieu est encore capable de nous pardonner, alors à ce moment-là, il y a l'ennemi qui vient. Et je peux vous dire que lui se réjouit parce qu'on lui a donné finalement toutes les armes pour nous martyriser et nous rendre esclaves et nous rendre malheureux. Ça, c'est la fausse culpabilité parce que si Dieu nous pardonne, le diable n'a pas le droit de nous accuser. Et ça, il faut absolument le comprendre, c'est une question de foi. Seigneur, je me suis trompé, j'ai fait des bêtises, j'ai péché, hein, j'ai commis des erreurs, je te demande pardon. Et avec la sincérité entière et en connaissant les promesses de pardon de Dieu, il faut accepter le pardon de Dieu et il faut se pardonner soi-même. Si on accepte que la moitié, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Donc, la culpabilité. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades de la culpabilité, tant ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, qui quelquefois peut avoir des réactions, eh bien, finalement, sur notre corps et toutes sortes de dérèglements. Hein. Alors, la culpabilité, il y a cette auto-accusation qui revient à peu près à la même chose, hein. Le remords et le regret qui peut durer toute une vie, hein. Et même parfois pour des chrétiens qui n'arrivent pas à passer le cap et qui se disent, mais, ah, c'est pas possible, je me suis trompé, j'ai pas fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. J'ai fait le contraire parce que je voulais faire le contraire, parce que ça me plaisait à l'époque et aujourd'hui, j'en ai les retours. Alors, regret et remords. Et quelquefois, il y a la sous-estimation de soi-même en disant, je suis raté, hein, je suis bon à rien, je suis même pas capable de mettre en pratique les choses les plus élémentaires. Et ça peut avoir aussi des conséquences de dépression et toutes sortes de choses, hein, ce que l'on pourrait retenir en soi-même, une salissure morale. Mais le sang de Jésus nous pardonne. Le sang de Jésus nous purifie. C'est ça, hein, que Jésus est venu pour nous délivrer du mal et nous délivrer du mal qui est dans le monde. Ça, il faut le savoir. Alors, l'apôtre Paul, dans notre lecture, eh bien, il s'exprimera un petit peu. Je vais faire un petit passage rapide sur les textes. Le texte qui était au précédent, il dira, mais je n'ai connu le péché, dira Paul, c'est le verset 7, hein. Je n'ai connu le péché que parce que la loi m'a dit que ce qui était péché, ce qui ne l'était pas. Et c'est vrai que n'allons pas nous faire des illusions, n'allons pas culpabiliser quelqu'un qui est dans l'ignorance, hein. C'est comme le code de la route, hein. S'il y a des règles du code de la route que je n'ai jamais apprises, que je n'ai jamais que je connais pas, bah, je suis coupable quand même, mais je suis coupable avant tout d'ignorance. Et ça, c'était le cas des païens du temps de Paul. Par contre, les juifs le savaient, et Paul était un juif, et il connaissait jusqu'au bout des ongles la loi de Dieu, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, etc., etc. Et il le dit, mais j'ai connu le péché parce que la loi me l'a fait connaître. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. C'est la loi qui fait connaître cela. Quand on ne connaît pas les lois ou quand on ne connaît pas une loi, bah, on l'enfreint naturellement, mais on l'enfreint dans l'ignorance. C'est tout à fait différent. Et il dit, mais à ce moment-là, si la loi ne m'avait pas dit ce qui était bien et ce qui était mal, eh bien, je n'aurais pas connu, si elle m'a dit que ce qui était mal, je n'aurais pas connu la convoitise, c'est-à-dire la tentation. Ignorant, tout simplement. Ce que l'on convoite est là où on est tenté, c'est parce qu'on sait. Et quand on le sait pas, on le sait pas, hein. Parce que si la loi m'avait dit, tu ne convoiteras point, et le péché saisissant l'occasion, qu'est-ce que c'est le péché? Qu'est-ce que c'est que ce ver qui est à l'intérieur de toute nature, de l'homme, dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, et qui découle après à travers des manifestations physiques, la violence ou la langue, enfin toutes sortes de choses, on l'a compris, hein, ce que ça veut dire. Le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, parce que je connais le commandement, je sais que c'est pas bien, toutes sortes de convoitises. Et plus je connais, plus je me sens faible pour mettre la loi ou les commandements en pratique, et à ce moment-là, eh bien, finalement, toute une armée de convoitises est venu m'assaillir, m'envahir pour se rendre maître finalement de ma vie. Le péché saisissant l'occasion. Le péché c'est pas un animal, hein. Hein, c'est pas, quand je vous ai dit un ver, c'est pas ça, hein. Mais je vous dis, c'est pas un animal, c'est un état moral, le péché. Alors on pourrait chercher bien loin, on n'a pas le temps de le détailler ce soir, mais c'est quelque chose qui est venu à travers le rejet de Dieu, l'indépendance que l'homme a pris par rapport à son Créateur. Où là, tout était dans le jardin d'Éden à sa disposition, bien, bon, et en vue de son épanouissement sur la terre, cette humanité, mais le péché a été introduit. Le péché est venu par la désobéissance. Et, nous l'avons lu encore, toutes sortes de convoitises. Ha ! Quelquefois, on peut être pris de convoitises, ou alors on va changer le mot en plus simple. On peut être pris par toutes sortes de tentations, même en étant chrétien. Et peut-être, justement, peut-être plus que les autres, parce que les autres, ils vont pas faire de cas de la tentation ou de la convoitise. Ils y vont carrément. Hein, y a quelqu'un qui a dit, le meilleur moyen pour surmonter la tentation, c'est d'y succomber. D'accord. Enfin, c'est certainement pas la solution, hein, quoi qu'il en soit. Parce qu'après, il y a véritablement une véritable culpabilité. Un dégoût de soi-même, de souillure, enfin, on se sent pas bien, hein, vraiment. Alors, une chose c'est Paul qui le dit, hein, car sans la loi, le péché est mort, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, s'il n'y a pas de loi, puisque c'est la loi qui me dit, c'est mal, tout simplement. Le péché est inactif, le péché est, voilà. Pour moi, dira Paul, étant autrefois sans la loi, il parle probablement, peut-être quand il était enfant et tout ça, parce qu'il n'a jamais été sans la loi, hein, Paul. C'était un juif qui a grandi finalement dans le judaïsme et d'une manière très très profonde, très conséquente. Alors il disait, mais pour moi, autrefois sans la loi, je vivais. Je vivais parce que on peut considérer que lui, comme bien d'autres, on était dans l'ignorance. On était dans l'ignorance vraiment de toutes les spécificités, de toutes les exigences qu'imposait la loi. Mais quand le commandement est venu, quand la parole de Dieu m'a dit « ceci est bien, ceci est mal, fais le bien, mais tiens-toi en garde du mal », mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, puisqu'il y avait cette association entre connaissance et désobéissance, tout simplement. Je connais, mais je désobéis. Et si je désobéis, je ne veux pas me faire seulement du mal à moi, mais c'est une infraction, c'est péché contre Dieu. Hein. Et moi, je mourus. Donc, il y a cette association qu'il y a entre la vie, l'obéissance, la foi et l'obéissance, et il y a cette association qu'il y a entre le péché qui donne la mort. On sait, hein, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Paul, un peu plus loin, ou un peu plus tôt, je ne sais plus dans quelle page, mais toujours est-il, c'est ça. On le sait, et on le sait très bien d'ailleurs. Car le péché saisissant l'occasion, c'est comme un guetteur, hein. Il est aux aguets le péché, il connaît nos faiblesses. On n'a pas tous les mêmes faiblesses, on ne péchera pas de la même manière, d'une manière ou d'une autre, mais on a nos points faibles, on a notre vulnérabilité propre. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. Tu ne feras pas ça, mais j'ai envie de le faire quand même. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine. Hein, autrement, ben, on serait des anges. Et par lui, me fit mourir. Alors, la loi est donc sainte, parce que Dieu ne va pas mettre en cause cette loi qui me réclame de faire le bien de Dieu, la volonté de Dieu. Et donc, la loi est sainte, on ne va pas dire le contraire. Et le commandement est saint. Loi, commandement, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort? Ça, c'est la grande question qu'il pose, c'est une interrogation. Hein. Est-ce que, finalement, ce qui est bon est cause pour me faire mourir? Oui, pour la bonne raison que j'ai désobéi. Voilà, c'est tout. Et la désobéissance, c'est un manque de foi en Dieu, en quelque sorte. Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort pour ce qui est bon, et que par le commandement, je devienne condamnable au plus haut point. Et voilà, le monde entier, et maintenant, le monde entier depuis tous les temps, hein, jusque là, perdu dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, c'est le désordre. Et nous sommes tous imprégnés dans un monde vicié, un monde corrompu. Et on s'aperçoit que bah, c'est la nature, il n'y en a aucun, finalement, qui peut dire qu'il est en dehors. Quand on appelle certains personnages très saint-pères, ou que ce soit monsieur qui habite à Rome, ou l'autre monsieur, le Dalai Lama, comprenez? Puis il y en a comme ça, hein. Dans toutes les religions, il y a des saints comme ça, mais des saints proclamés par la bouche humaine. Parce que personne n'est saint. Personne n'est indemne du péché. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tous les hommes meurent. Autrement, ben, ils vivraient. Il n'y en a qu'un qui a finalement passé, eh bien, l'obstacle, c'est Jésus. Oui, vous allez peut-être dire, et vous le savez, on est dans une réunion très intime ce soir, mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus est mort. Oui, il est mort, mais il n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour les nôtres. Ça, c'est quand même la grande différence. Et ça, c'est important. J'en arrive au texte que nous avons lu, mais je voulais remettre un petit peu les choses en place parce que c'est quand même important. Paul dira, et il dit pas « je sais », il dira « nous savons ». Donc, vous le savez aussi, on le rappelle ce soir, que la loi est spirituelle. On a vu qu'elle est bonne, elle est saine, elle est juste, hein, et elle peut nous apporter tout le profit. Mais quel est l'homme, et je reviens sur cette pensée, quel est l'homme qui peut prétendre avoir accompli la loi parfaitement? Eh bien, on verrait cet homme finalement jamais mourir. Et nous mourrons. Alors, la loi, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle vient de l'esprit, d'abord. Mais moi, dira-t-il, en comparaison, je suis charnel, je suis vendu au péché. C'est terrible, hein, le mot est terrible, parce que c'est un mot qui relève, en quelque sorte, la signification vendue. Oui, nous avons été vendus, nous sommes vendus, en quelque sorte, par la convoitise, par la tentation. Alors, ça commence naturellement, et bien là, dans le jardin d'Éden. Alors, je suis charnel. Charnel spirituel, c'est les deux antagonistes. C'est les deux côtés, hein, mais qui s'opposent. Charnel, spirituel. Car je sais Je ne sais pas ce que je fais. Alors c'est grave, hein, il y a des gens qui pourraient dire aujourd'hui, Paul, il avait peut-être un petit problème cérébral. Je ne fais pas ce que je sais, mais bien sûr. Je ne fais pas ce que je ne sais pas ce que je fais, dans une certaine mesure. On ne mesurera jamais, lorsque l'on fait le mal, lorsque l'on pêche, jusqu'où pour entraîner le péché. D'abord nous-mêmes, mais aussi peut-être ceux qui sont victimes de notre faute. Et il y a des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas se rattraper. Parce que c'est parti, c'est parti. Et les choses ont été engagées, et aujourd'hui, peut-être que nous avons à pleurer sur ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, la manière dont nous avons traité certains, la manière dont nous n'avons pas fait certaines choses qui étaient bien, et que nous étions en mesure de le faire, et qu'on s'est dit, ben, les autres le feront à ma place. Alors, je ne sais pas ce que je fais, et il dira, mais par contre, je ne fais point ce que je veux. Ah, voilà la volonté. Et là, il faut beaucoup de volonté. Parce qu'on peut toujours dire, hein, eh bien, moi, je vais résister. Moi, je vais tenir le coup. Et quelquefois, en disant ça, je suis fort. Ben, quelquefois, ce qui peut nous arriver, c'est que quand on le dit à d'autres, ou quand on le fait à d'autres, c'est que, un jour ou l'autre, ça va nous arriver, mais sur un autre plan. Et là, on va peut-être comprendre que ce que Paul dit, je fais ce que je hais, je ne fais point ce que je veux. Et la volonté, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est très faible devant le mal. Ouais. Et peut-être même, on pourrait dire que dans notre humanité, à quelque niveau que ce soit, même y compris les chrétiens, que quelque part, c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Oui, ça paraît surprenant, parce qu'il y a cette faiblesse à l'intérieur, cette convoitise, ces tentations. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, parce que je sais que la loi est bonne, mais quelque part, eh bien, je reconnais que la loi donc est bonne, et je fais ce que je hais. Il y a cette dualité, il y a cette contradiction, il y a cette guerre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous ai parlé de deux natures. On est dans un monde qui n'est ni blanc, ni noir, mais il est gris. Et nous-mêmes, chrétiens, nous sommes dans ce monde. Faut pas se leurrer, hein. Et Jésus le dira dans la prière sacerdotale, il dira, mais je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Quel conflit! Et quelle dualité à l'intérieur de nous-mêmes! Et n'allons pas nous enorgueillir en disant, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela, j'avais une tentation, mais je l'ai surmontée par mes propres forces, par mes propres erreurs. Faisons attention. Parce que si on surmonte le mal, c'est encore Dieu qui nous vient en aide. Autrement, il y aurait longtemps qu'on aurait volé dans les décors. C'est pour faire attention. Et c'est ce qu'on appelle le légalisme, qui est très fréquent dans le monde, mais qui est fréquent très souvent aussi dans l'Église, de se sentir plus fort que les autres. D'ailleurs, Jésus le dira à Pierre, hein, ou je ne sais à quel autre, il dira, mais que celui qui est debout, c'est pas Jésus, mais c'est Paul, qui pouvait en parler en conséquence, que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est pour ça qu'il faut être modeste, parce que celui qui tombe, c'est l'orgueilleux. Celui qui est humble, qui marche humblement, qui, voilà, sait très bien que devant les bons commandements de Dieu, eh bien, même les meilleurs et ceux auxquels il aspire le plus, eh bien, il est encore capable de passer à côté de désobéir. C'est terrible, hein. Alors on va voir à la fin, parce que c'est formidable la fin de notre méditation, elle nous montre bien ce qu'il faut faire et ce qu'il s'agit d'être. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. Ah tiens, c'est curieux, voilà, que Paul vient de passer un scanner, ou je ne sais pas, un IRM, et puis là on vient de voir un petit peu les résultats, et il va le dire, voilà. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc il y a un habitant qui était introduit, qui s'est introduit à l'intérieur de moi-même, dans ma vie morale, dans ma vie spirituelle même, et qui lui, eh bien, est en train de vouloir me ramener en arrière. Alors que j'ai fait une déclaration, une profession de foi, une déclaration que j'aimais Jésus, que sa parole était véritablement, eh bien, là, on pourrait dire, eh bien, toute ma vie, et de vouloir le servir et lui obéir, et on s'aperçoit qu'il y a des moments, eh bien, nous sommes tous les uns comme les autres, à passer par des moments de faiblesse, quelquefois qui sont aggravants parce que nous sommes malades, parce que nous sommes accidentés ou autre chose, ou quelquefois nous sommes fatigués, tout simplement. Alors il dira, mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, et comment arrêter le péché de me mener par le bout du nez? C'est ça la question, on pourrait dire. Voilà. Comment se fait-il que moi je suis bien disposé, mais ma nature, double, il y a le bon, il y a le mauvais, mais comment se fait-il que le mauvais côté arrive quelquefois à me faire des crocs en jambes, à me faire chuter lamentablement. Quelquefois j'en ai honte, quelquefois j'en rougis, quelquefois je me dis, mais si les autres me voyaient, ils diraient, mais c'est pas possible. Hein? Voilà, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Comment virer cet intrus? Comment dominer pour, avec la meilleure volonté du monde, en disant, toi, tu restes là, tu restes couché à mes pieds, et tu ne bouges pas, hein? C'est ça. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu dira à Caïn, hein? Le péché se couche à ta porte, surmonte-le, hein? C'est ça. Ou alors, par exemple, Paul dira également dans Romains, il dira, mais surmontez le mal par le bien. C'est pas toujours évident. Ce qui est bon, je le sais. Il sait plus. Mais là, il affirme, cette fois-ci, alors, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ah, ça souligne encore, finalement, toute notre vulnérabilité, notre fragilité et notre, nous pourrions dire, eh bien, cette carence naturelle que nous avons héritée de génération en génération et de notre arrière-arrière-arrière-grand-père que vous connaissez, dont vous connaissez le nom, il s'appelait Adam. Hein? On a le même, les uns et les autres. Hein? Voilà. Il n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ah, voilà le mot qu'il fallait dire. La chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? Eh bien, la chair, c'est le contraire de l'esprit. C'est le contraire de la vie spirituelle. La vie charnelle et la vie spirituelle. L'homme est mené par ses sens. Il est mené par ses membres. Il est mené par ses appétits. Il est mené par ses convoitises, par ses tentations. Et c'est là où, justement, eh bien, le diable, le péché, le diable qui se cache derrière, et qui nous connaît parfaitement, et qui sait comme un pêcheur comment attraper le poisson, comprenez, avec le bon appât. Et il y a toujours des appâts, il y a certains appâts qui nous laisseront complètement indifférents, on se dit, on n'a rien à faire de ça, ça ne nous intéresse pas, etc. On restera indifférent, on restera impassible. Mais il y en a d'autres, le diable nous connaît bien, et lui, il nous fait finalement sur nos points faibles. Et c'est ça la question, hein. Car j'ai la volonté... Le péché n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, oui, ce désir, cette aspiration, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est terrible. C'est déconcertant comme histoire, vous vous rendez compte? J'ai la volonté, je prie, je demande au Seigneur, Seigneur, tu vois, je suis fragile sur ce point-là. Mais, oh là 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 là, quelquefois, on est juste à la limite, quelquefois, on passe la barrière aussi, ça nous arrive. Pourtant, je le veux, je le demande au Seigneur, Seigneur, garde-moi. D'ailleurs, dans Notre Père... Ne nous induit pas en tentation, comme si Dieu, eh bien, nous conduisait dans la tentation. C'est pas lui. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, nos affinités et notre propension, finalement, à caresser certaines choses et qui peuvent, eh bien, tout simplement nous faire déraper à un moment donné. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alors là, c'est terrible. On se mord les doigts, là, à ce moment-là. Il y a une différence à faire. Et je voudrais la rappeler ce soir, parce que peut-être que ça peut nous concerner les uns les autres, et peut-être si vous êtes là, vous l'entendez, hein, peut-être d'autres ne sont pas là, c'est dommage, mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que il y a deux positions. Il y a lorsque nous péchons par accident ou par faiblesse, mais c'est passager, et on se reprend, et on revient, et on repart. Hein, repart, ça veut dire... revient, repart, ça veut dire repentance. Hein, on peut y ajouter égale repentance. Maintenant, il y a le péché dans lequel on tombe et qui devient chronique, qui devient finalement eh bien, la nature dominante chez nous. Un seul péché est capable de ruiner une vie. Et je pense à l'alcool, à la drogue, à toutes sortes d'addictions d'une manière ou d'une autre. Et là, le piège s'est refermé, on ne peut plus s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir, mais... on va ruiner notre vie. On peut ruiner notre santé avec ça. Cette santé qui est quand même, le corps, qui est quand même le temple de Dieu. Hein, faut pas l'oublier. Hein, c'est ce que vous avez lu dans la Bible aussi. Et puis, on peut faire souffrir les autres. Parce que ça devient tellement là, habituel. Même, c'est une addiction. C'est permanent, en quelque sorte. Et c'est difficile, hein. Pour la personne elle-même, mais c'est encore plus difficile pour les autres de vivre dans cette situation. Et il dira bien, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas, et ça c'est terrible. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui n'ont peut-être pas perdu leur salut. Parce que ça va beaucoup plus loin, la réflexion, que un positionnement primaire. Mais je pense que ils ont raté véritablement leur vocation de chrétien. leur vocation de service, leur vocation d'être finalement un enfant de Dieu, alors qu'ils ont été badifolés dans toutes sortes de mariages, dans toutes sortes de choses, et peut-être qu'au dernier moment, puisque la Bible nous en parle, reviendront-ils, se souviendront-ils qu'un jour ils se sont engagés, qu'un jour ils ont fait profession de foi, et qu'à un moment donné, c'était l'accident permanent, on peut dire, puis peut-être qu'au moment de passer de l'autre côté, de rencontrer le Seigneur, ils se repentiront. Vous savez, quelqu'un qui se repent, sincèrement, véritablement, pour moi, il sera sauvé. Même au dernier moment. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors on va dire, il va falloir qu'il paie maintenant. Qu'il paie toutes les fautes de sa vie, etc., etc. Alors, écoutez, il ne nous appartient pas de juger. Parce que quelquefois, on a envoyé des gens en enfer qu'on va retrouver au ciel. Et quelquefois, on a tellement béni de gens qu'on pensait qu'ils étaient au ciel, ils sont de l'autre côté. Mais pas du bon côté. Faisons attention. Là, on est en train de voir, on est en train de fouiller au tréfond de l'âme humaine, et on s'aperçoit qu'il y a... C'est pas à nous de juger, c'est au Seigneur. Vous savez, le fils prodigue, quand il est revenu, il n'était pas propre. Hein. Il avait tout dépensé, et pourtant, il a été accueilli. Son frère aîné, qui était collé-monté, qui était bien mis, bonne mine et tout ce que vous voulez, lui, il est resté dehors. Hein. Pourtant, il est invité à rentrer. Tout ça. Alors, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est terrible, ça. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça fait deux fois qu'il le dit, Paul. Est-ce qu'on pourrait pas lui tordre le cou une fois pour toutes au péché? Faisons attention que ce soit pas lui qui nous torde le cou. Parce que dans ce domaine-là, c'est une nature spirituelle, c'est une dimension spirituelle, une dimension morale. Ouais. Mais avec des répercussions spirituelles. Alors, le pauvre Paul, on se dit, mais un homme comme Paul, qui avait une telle connaissance du judaïsme, qui avait une telle connaissance de la révélation de Dieu, il en était encore là. Eh ben oui, parce que Paul, il n'a pas honte de dire ce qu'il est. Il n'a pas honte, il ne veut pas cacher devant les autres, finalement, eh bien, ses faiblesses et tout ce qu'il peut être dans l'homme caché, l'homme dissimulé, mais il l'écrit et il le dit pour des siècles et des siècles. Heureusement qu'on a ce texte ce soir. Parce qu'on deviendrait véritablement pire que les pharisiens. Absolument. Quand on voit que Jésus avait une indulgence particulière pour le publicain, par contre, le pharisien, il est rentré, il est sorti comme il est rentré, tout simplement. Faisons attention que la notion religieuse ne vienne pas nous amener à être insensible et, insensible et implacable. Voilà. Et... Ça, c'est bien dommage, hein, parce que les pharisiens, ils avaient, eux, c'était bien, ils allaient au temple, ils donnaient leur offrande, leur dîme, etc., etc. Il n'y avait aucun problème, hein. Ils avaient là toutes sortes de mécanismes religieux et traditionnels, rituels, etc., etc. Ils se disaient, mais on est les meilleurs, hein. C'est pour ça que quand ils ont vu Jésus, là, l'homme à la barbe et aux sandales, là, qui battait la poussière de Palestine, ils se sont dit, c'est pas possible que ce soit le Messie, cet homme-là. Et ils l'ont crucifié. Tout simplement, ils se sont débarrassés parce que ils ne mesuraient pas la dimension spirituelle qu'il y avait dans Jésus, le Messie d'Israël. Mais ils mesuraient Jésus et tous ceux qui ressemblaient à Jésus par rapport à eux. C'était eux la norme. Et si on n'était pas comme eux, on était des moins que rien, tout simplement. Attention, ça nous guette. Tout ça dans le jugement. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Alors voilà. Cette loi, elle est là. Je la connais, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Mais elle est là aussi. Quand je veux faire le bien, c'est terrible. Le mal est attaché à moi, comme si c'était scellé, comme s'il y avait véritablement là quelque chose qui était rivé finalement. Je veux faire le bien. Je désire faire le bien. J'aspire à faire le bien. Et là, il y a toujours un caillou dans la chaussure qui me fait boiter, qui me fait marcher de travers. Ça va? On peut se reconnaître? Moi, je me reconnais, hein. Je vous le dis honnêtement, hein, parce que c'est pas parce qu'on a un titre de pasteur ou une fonction de pasteur qu'on est au-dessus des autres. Hein. On est bien d'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut expliquer les choses et qu'on peut le dire pour que ça nous aide. Non pas pour nous culpabiliser, on a tellement entendu de prédications qui fustigeaient, qui brûlaient, qui incendiaient, etc., etc. Ça, c'est pas l'esprit de Jésus. C'est pas l'esprit de l'évangile. Quand je trouve donc en moi cette loi, je veux faire le bien mais le mal est attaché à moi quand je prends plaisir à la loi de Dieu. Et tout chrétien sincère et véritable, mais nous prenons plaisir à la loi de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons les psaumes. Nous aimons les lettres de Paul, même si elles sont un petit peu râpeuses, parce que c'est dur, hein. Et c'est sûr, hein. Un peu rugueuses. On aime bien, finalement, toutes les histoires de l'évangile. Suivre Jésus ici ou là, et puis faire du bien, etc., etc. On aime bien ces paraboles. Alors, je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est quelque chose qui nous a réjouis, ça, le jour où nous sommes convertis. Ah, extraordinaire. Moi, je me souviens encore, lorsque j'ai lu pour la première fois la Bible, puis bon, on a poursuivi ensuite, mais c'était quelque chose de merveilleux et de formidable. Je me dis, j'ai trouvé là. J'ai trouvé ce que mon âme désire depuis que j'étais petit. Hein? Et il a fallu à un moment donné, finalement, que toute la lumière vienne. Pas toute la lumière, petite partie de lumière, hein? Ça c'est sûr. Ça nous a réjouis. On a aimé la parole de Dieu, d'ailleurs on y restait. Et la parole de Dieu est l'autorité de notre vie aujourd'hui. Notre vie spirituelle, notre vie morale. Mais ça n'empêche pas que je suis faible. Malgré tout ce que je sais, tout ce que je connais. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'âme intérieure, c'est-à-dire moi. Moi, ce que je suis. Le Alain, vous appelez pas tout ça là, mais le Alain que je suis, converti, ben j'espère, repenti de mes péchés, bon, toute mon histoire, etc., etc. Ça, c'est l'homme intérieur, mon âme, mes aspirations profondes. Je dis, mais bravo pour ta parole, merci parce qu'elle est magnifique. Donc l'homme intérieur, mon âme, mais je vois dans mes membres, hein, aïe, aïe, aïe. Les membres, c'est ce qui me rattache à la terre, c'est-à-dire les sens, hein. Oui, l'odorat, la vue, le goûter, enfin le toucher, enfin tout ce que vous voulez, hein, mes mains, mes pieds, dans toutes sortes de directions. Mais, voilà, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi, où je déclare que la parole de Dieu est bonne, qu'elle est juste et qu'elle est finalement eh bien la meilleure. Ah, mon corps. Vous savez qu'un jour on n'aura plus de corps. Ça n'a pas l'air de vous étonner, non ? Non, vous surprendre en tous les cas, hein, peu importe. Mais toujours est-il que nous serons rentrés dans une dimension qui sera une dimension parfaite et spirituelle. Bien sûr que nous aurons un corps, puisqu'il nous est dit que nous recouvrerons, nous trouverons, nous serons dans un corps, une identité et une nature corporelle glorifiée. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on ne verrait pas le monde comme il est, avec toutes ces atrocités, avec tout le mal qui existe. Et nous sommes dans ce monde aussi. Ou alors, faut se mettre dans un cloître et vous fermez les portes et vous verrez que le mal, il est encore là. Il sera toujours là, de toute façon. Parce que le mal, il n'est pas seulement à l'extérieur, il est à l'intérieur de la nature humaine. Double nature, on l'a dit. Hein. Alors, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché ? Ah voilà, je suis prisonnier. Eh bien voilà, il fallait le dire. Captif. Et vous savez que à ce mot captif, à ce mot... chaîne, à ce mot prison, à ce mot geôle, enfin tout ce que vous voulez, l'évangile répond par la libération, par l'affranchissement, par le pardon et par la liberté. Et vous avez les... Je viens de citer quatre mots d'un côté, quatre mots de l'autre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me rend captive de la loi du péché, comme si j'étais en prison derrière des barreaux avec une porte de fer. C'est bien pour ça que Jésus est venu, hein. Que j'ai dans mes membres. Et il dira, alors ça c'est véritablement les préludes de la repentance, bien que Paul s'est repenti depuis longtemps, mais il l'écrit. Il l'écrit pour tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui écoutent et ceux qui ont peut-être traversé ces jours-ci, ou peut-être cette semaine, ou dans cette année, eh bien des luttes morales terribles. Moi, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas perdus. Et si le diable s'occupe de vous, c'est que vous êtes vivant. Autrement, si vous étiez mort, il ne s'occuperait pas de vous. C'est sûr. Bon. Ça me réconforte. Eh oui. On n'inquiète pas les morts, ils sont dans le cimetière, ils bougent plus, hein, c'est terminé. Hein. Alors, comment comprendre les choses ? Misérable que je suis, c'est Paul qui le dit. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, Paul était converti ? Ou il était encore juif ? Non, il était converti. Mais quand il voit, et en plus avec un ministère, qui ne devait pas être certainement facile, parce que là, c'était vraiment l'opposition systématique au christianisme naissant et chez les juifs, on ne voulait surtout pas entendre parler de Christ, le Messie d'Israël. Là, on est chez les Romains, parce qu'il écrit aux Romains, les païens, avec leurs idoles, avec leurs faux dieux, leurs cultes occultes, enfin toutes sortes de choses. Il dira, c'est pour tous les hommes, juifs ou néo-juifs, hein, misérable que je suis. Et vous avez remarqué la phraseologie ? C'est pas misérable que vous êtes. Ils ne fustisent pas les autres, ils s'impliquent. Misérable que je suis, se reconnaît. Et c'est vrai que quelquefois nous pouvons frôler le désespoir en disant « Mais j'avais pourtant pris des résolutions le 1er janvier, enfin que ce soit le 1er janvier ou les autres, c'est pareil. Hein? J'avais dit « Seigneur, je ne le ferai plus, je ne toucherai plus à ça, je ne ferai plus ceci et cela. » Puis je m'aperçois que lamentablement, à l'occasion d'une faiblesse ou à l'occasion de quelque chose qui s'est présenté, et là j'y suis allé la tête baissée, hardiment et joyeusement, j'ai pas pu me retenir. Ça va ? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Et le mot est dit, le corps de cette mort. La chair nous fait mourir. La vie de l'esprit nous fait vivre. C'est une résurrection. Et Jésus le dira d'une manière tellement belle et admirable, il parlera de la nouvelle naissance. Et nous sommes nés de nouveau les uns et les autres. Qu'est-ce que vous seriez venu ce soir pour écouter cette parole ? On parle que des Jeux Olympiques en ce moment. Et quand j'entends ça, moi je ferme, parce que là, on va en avoir pour 7 ans. Hein. Enfin bon, peu importe, il y avait tellement de choses à faire hein, vendredi soir. Autrement, eh bien oui, qui nous délivrera du corps de cette mort ? Et il faut vivre dans ce monde, et il faut supporter la tentation, il faut vaincre la tentation, mais on va pas y arriver tout seul. On n'y arrivera jamais tout seul. Misérable que je suis, qui me délivrera donc du corps de cette mort ? Et c'est comme si c'était un éclatement de une louange, un feu d'artifice, de reconnaissance, de gratitude, et peut-être eureka, on a trouvé la solution. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue. Merci Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés dans notre péché. Tu ne nous as pas abandonnés dans nos convoitises. Tu ne nous as pas abandonnés dans nos faiblesses. Tu ne nous as pas abandonnés dans là où nous sommes le plus vulnérables. Tu ne nous as pas abandonnés, mon Dieu, mon Père maintenant, par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu à notre place. Et parce que je crois en Jésus qu'il a vaincu à ma place, eh bien moi je suis vainqueur avec lui. Ça ne veut pas dire que je marcherai droit continuellement. Il m'arrivera encore, mais à chaque chute, il y a toujours un relèvement, et ce relèvement nous amène à un moment donné à mourir à nous-mêmes pour véritablement accepter, être rempli de la vie de l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu. Quand Jésus dit « Tout est accompli », qu'est-ce que nous pouvons faire de plus ? Nous sommes rentrés dans la grâce. Pourquoi retournerions en arrière pour faire la loi ? Ça, c'est l'épître aux Galates. Hein. Galates, c'est ça. Vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Alors que nous étions, nous, dans la chair et que maintenant, nous vivons dans l'esprit. Seigneur, grâce soit rendue, dira Paul, à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois sur notre vie. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui nous a ouvert, la porte de la liberté, de l'affranchissement en ressuscitant. Et si Christ est ressuscité, nous ressuscitons avec lui. Nous sommes ressuscités. Le baptême est là pour le prouver dans le geste. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Encore un mot qui surgit de ce texte, c'est le mot esclave. On est esclave ou on ne l'est pas ? On ne l'est plus, frères et sœurs. Et je ne vois pas pourquoi, eh bien, nous nous comporterions, nous agirions et nous penserions comme des esclaves. C'est terrible, hein ? C'est ce qui s'était passé pour les Hébreux en sortant de l'Égypte. Esclaves en Égypte, ils étaient encore esclaves dans le pays de Canaan, hein ? Parce que c'était pas fait, ça. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils dans la maison de notre Père. Et c'est quelque chose qui nous est souligné. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus, nous sommes libérés. Le péché est toujours là. Il frappe encore à notre porte. Et plus nous allons avec l'âge, plus on s'aperçoit que finalement, et plus nous grandissons en Jésus, moins il a de place. C'est pour ça que la croissance et le développement spirituel est absolument nécessaire. Quand on a 30 ou 40 ans ou moins ou plus de conversion, il doit y avoir une œuvre, il doit y avoir des fruits. C'est ce que l'on peut dire à la ressemblance de Jésus, ressembler à Jésus. Je terminerai. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si Dieu vous ne condamne pas, pourquoi vous allez vous condamner ? Et pourquoi vous allez être entraîné dans le péché pour que finalement le diable vous condamne ? Qui nous accusera ? puisque c'est Dieu qui justifie. Une petite histoire que j'ai déjà rencontrée il y a quelques années, que j'ai déjà racontée, pardon, il y a quelques années, est la suivante. Lorsqu'un homme commet un péché, quel qu'il soit, il n'y a pas de grand et petit péché, vous le savez. Cet homme qui commet le péché, sans le savoir, plus ou moins, coupe le cordon qui le relie à Dieu à chaque fois. Voilà, chaque fois il y a une coupure. C'est le phénomène. Alors pour le ramener à lui, Dieu le rattache en faisant un nœud au cordon. Vous le connaissez, hein, si vous en souvenez. Toc, voilà, il le rattache, il le ramène à lui en faisant un nœud finalement au cordon. Ainsi le cordon, à chaque fois noué, devient plus court. Bah oui, c'est vrai, c'est normal. Hein, plus le nœud est gros, plus ça va se rétrécir, hein, très vite. Et il devient plus court, ce cordon, et rapproche toujours davantage le faux type de Dieu. On a souvent présenté les choses, tu as péché maintenant, Dieu s'écarte. Toi, tu es dans le désert, tu es là. Non, moi je voudrais vous dire le contraire, parce que quand on a bien compris cette leçon, c'est pas Dieu ne nous laisse pas. Comme le père du fils prodigue ne l'a pas abandonné, il lui a dit maintenant tu repars dehors, c'est pas nécessaire. Hein. Donc à chaque fois, ça nous rapproche, avec le nœud, le fautif, s'approche de Dieu parce que ça devient de plus en plus... Et maintes fois, hélas, nos péchés coupent le cordon de raccordement et avec chaque nœud supplémentaire, Dieu continue à nous attirer à lui de plus en plus près. Ça se rétrécit dans l'espoir de notre repentance. Une repentance spirituelle, pas marmonnée en disant « Seigneur, voilà, je viens au confessionnal, etc. » Non, c'est pas comme ça. Une véritable et sincère repentance et de pouvoir lui pardonner. Parce que la repentance, ça ouvre la porte au pardon de Dieu, quoi que nous ayons fait, quoi qu'il en soit. Parce que vous connaissez ce texte de Paul, « Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et le prophète Osée dit cette parole, « Prophète, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » C'est un remède que nous avons pris ce soir. Ouais. Devant nos questions, nos interrogations, en cherchant la voie, en voulant faire la volonté de Dieu, le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous soyons perdus par toutes sortes de choses, par notre nature, etc. Jésus a payé le prix. Écoutez, je l'ai tiré avec des liens d'humanité. Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas là afin de nous faire marcher avec des coups de trique sur le dos. Avec des cordages d'amour, ça c'est tout le message de l'Évangile, est manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Connaissons le texte. Hein? Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Le Seigneur n'est pas contre nous. Le Seigneur est avec nous pour que nous allions jusqu'au bout. Et il sait très bien que nous sommes des pécheurs. Et pour cette connaissance qu'il a que nous sommes pécheurs et perdus, il a donné Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. C'est important. C'est essentiel. C'est le message du salut. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que heureusement que nous avons des hommes, un homme comme Paul, qui a ouvert son cœur, qui n'a pas voulu que ceux qui pouvaient l'admirer pensent qu'il était un surhomme, qu'il était un géant de la perfection et de la sainteté. Non, nous croyons que Paul était Paul et que, en effet, il ressemblait à son maître. Il était humble. Et nous voulons croire, Père éternel, que ce n'est pas notre qualification de chrétien qui fait de nous, en effet, des surhommes, mais au contraire, nous mesurons notre fragilité. Nous mesurons, Seigneur, que nous ne marchons pas toujours droit. Et nous pouvons souvent dire, et c'est vrai que ça nous revient à la mémoire, que lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Ce mal qui s'exprime de mille et une façons, en fonction des tempéraments, en fonction des caractères, en fonction, Seigneur, des membres que nous utilisons, soit ce que nous entendons, ce que nous disons à travers, Père éternel, eh bien, toutes sortes de choses qui sont répréhensibles. Alors, Seigneur, c'est parce que la loi m'a dit que c'était pas bien, qu'en effet, Seigneur, eh bien, cette loi-là, eh bien, Seigneur, elle me fait mourir, c'est vrai, mais à côté de la loi, il y a la grâce. Il y a la foi dans la grâce de Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons retenir ce soir à travers, eh bien, cet écrit de Paul et ce commentaire, c'est que nous sommes confrontés, Seigneur, avec eh bien, cette mort, Seigneur, programmée à travers le péché. Mais d'un autre côté, l'apôtre pourra le dire, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce que celui qui a trouvé la solution, celui qui nous offre la solution, Seigneur, à nous batailler contre la loi et la loi de notre chair, eh bien, c'est Jésus-Christ. Parce que ce qu'il est venu faire, c'est donner, Seigneur, une autre dimension, Seigneur, à notre vie, par la foi, par le sacrifice de Jésus que nous confessons ce soir. Moi, je peux dire, je crois que Jésus m'a sauvé. Et je crois qu'il n'y a plus de condamnation, Seigneur, parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est vrai que nous péchons, et cela nous fait honte. C'est vrai que nous pouvons faire ceci et cela. Mais, Seigneur, ce n'est pas pour rester ainsi. C'est pour que, à chaque fois que tu fais un nœud, lorsque nous faisons des choses qu'il ne faut pas, eh bien, Seigneur, t'es pas là pour nous repousser, mais t'es là pour nous rapprocher. Et qu'à un moment donné, Seigneur, tu attends le moment où nous allons vraiment, vraiment et réellement, eh bien, nous repentir par l'Esprit qui nous pousse à nous repentir et que toi, en retour, tu vas nous pardonner. Et nous te bénissons et nous te remercions. Plus près de toi, Seigneur. Toujours plus proche de toi, Seigneur. Et toi de nous. Et nous voulons te remercier parce que tu nous as rapprochés. Et aujourd'hui, tu n'es pas seulement avec nous, mais tu es en nous par le Saint-Esprit. Louange et gloire à toi. Merci, Seigneur, parce que tout cela est couronné. Eh bien, de Seigneur, de ce que l'homme a tellement besoin, cette humanité, c'est de l'amour de Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.